Voilà, je vais vous inviter à ouvrir un petit moment la parole de Dieu dans les évangiles, notamment l'évangile de Luc au chapitre 7. Évangile de Luc au chapitre 7 et la méditation que nous aurons cet après-midi, le message que je souhaite partager avec vous, pourrait s'intituler « La rencontre ». Et on va voir quatre rencontres que des hommes et des femmes en fait avec le Seigneur Jésus. Et on va aller voir ces rencontres-là de deux façons. La première, la façon la plus normale qui soit, c'est eux, chacun, chacune, qui rencontrent le Seigneur. Mais ensuite, on les reprendra, les quatre, pour le regarder dans l'autre sens. Parce que c'est aussi une rencontre dans l'autre sens. C'est le Seigneur qui est aussi venu les rencontrer. Chacune et chacun pour leur part. Alors, on va aller dans l'évangile de Luc. Et Luc, c'est donc le médecin qui a fait des recherches exactes et qui ensuite a mis par écrit cela. Alors on va au chapitre 7, verset 36, je vous donnerai les références un peu en avant, comme ça vous avez la possibilité de les projeter. Luc 7, 36. Un petit peu ce qui s'est passé à midi pour les uns et les autres, c'est-à-dire un repas convivial, avec une particularité là, c'est que c'est un pharisien, docteur légaliste, de la loi juive qui invite Jésus et des gens viennent. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que chaque fois que le Seigneur était quelque part, les gens venaient. Quel que soit leur état de cœur, leur intention à son égard, de toute façon, ils étaient là. Et le Seigneur va parler à ceux qui ont un état de cœur qui est droit, qui le recherche, comme il parlera aux autres pour leur dire la vérité. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme pécheresse, qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui ?» Et de quelle espèce est la femme qui le touche? Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle » répondit-il. Et on va laisser la suite de cet entretien entre le pharisien Simon et Jésus pour porter nos regards sur cette rencontre qui est un petit peu inattendue, en tout cas du côté de cette femme, parce que Jésus est invité non pas chez elle, elle s'en sent indigne parce qu'elle est pécheresse, il est invité chez un docteur de la loi. Quoi de plus normal que celui dont on dit qu'il est le prophète soit invité par un religieux de haut rang? Mais Jésus n'a que faire des invitations. La situation se passe à Béthanie. Béthanie, c'est un nom qui signifie « maison des dattes non mûres ». Ça a toujours une signification, les noms en hébreu. Hein, ou d'autres disent « maison de l'affligé ». Autrement dit, à Béthanie, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a des dattes, mais ce n'est pas mûr. Et apparemment, ça devait être connu pour que ça porte, ce nom-là soit donné à la ville, Béthanie. Ailleurs, il y aura Bethléem, qui, elle, s'appellera la maison du pain, parce qu'il y avait là de ceux qui écrasaient la farine, moulaient la farine, et puis faisaient le pain. Mais à Béthanie, c'est une autre réputation. Peut-être que là où vous vivez, ou même le contexte duquel vous êtes issu, a sa propre réputation. Une réputation de gens incroyants, ou alors une réputation de gens bien, ou une réputation de gens querelleurs, difficiles. Bref, on a toujours une réputation qui nous a été collée sur le dos. Voilà, et on est obligé de faire avec elle. Elle est connue comme une femme pécheresse. Et le pharisien est dur à son égard. Il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. C'est dur quand on arrive à parler de quelqu'un comme ça. Parce que même si cette femme est pécheresse, à l'appréciation du pharisien, elle n'a, aux yeux de Dieu, pas moins de valeur que lui. Qui est-il, lui, pour juger cette femme? Qui sommes-nous pour juger les autres? Un seul est capable de nous juger, c'est Dieu. Et pour le moment, il ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous chercher et pour nous sauver. Cette rencontre avec cette femme est extraordinaire. Elle vient parce qu'elle a entendu parler de lui. Et elle va s'asseoir au pied de Jésus et cette femme va se mettre à pleurer. Ce n'est pas le contexte qui l'a fait pleurer. Parce que le contexte n'est pas favorable, parce que quelqu'un soit touché, soit ému. Parfois, on peut petit peu manipuler les gens, les auditoires, pour mettre une certaine ambiance et faire pleurer. Mais là, c'est un repas avec Simon le pharisien. Vu comment Simon pense et réfléchit, peut-être que tout un petit peu imprégné de sa façon à lui de fonctionner. Donc c'est peut-être pas l'endroit favorable pour être touché au plus profond de soi. Ceci pour dire que peu importe les contextes et peu importe les personnes qui sont là, dans la mesure où Jésus est là, tout peut se passer dans la vie d'une personne. Et tout va se passer dans la vie de cette femme. On pourrait dire, mais pourquoi dans sa vie à elle et pas dans celle des autres? Eh bien, tout simplement parce que c'est lié à son état de cœur. Elle est pécheresse au vu et au su de tout le monde, seulement elle est capable d'ouvrir son cœur devant celui dont elle sait qu'il est capable de transformer sa vie. Et si vous lisez la suite, dans l'évangile de Luc, et puis dans l'évangile de Jean, il s'agit de Marie, la sœur de Lazare, qui prendra soin de lui, et pour laquelle Jésus dira plus tard, Marie, elle a choisi la bonne part. Mais elle sait pourquoi elle a choisi la bonne part, parce qu'elle a été, à un moment donné, touchée par l'amour que le Seigneur était capable de manifester à son égard. Il est dit d'elle, c'était cette Marie, dans Jean 11, hein, mais on ne le projette pas, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur. Voilà. Une seule chose est nécessaire. Vous tournez la page, vous allez à Luc 10, et Marie a choisi la bonne part. Et voilà la rencontre qui n'était pas prévue dans un contexte qui n'était pas favorable. Béthanie, c'est la maison de l'affligé. Justement, il y a dans cette maison, dans ce village, et il y a dans cette maison en particulier, quelqu'un qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme pour qu'elle en arrive à vivre de cette manière-là et jusqu'à faire parler d'elle, c'est une femme pécheresse. Alors on peut facilement penser ce qu'elle peut-être faisait dans sa vie pour porter un tel qualificatif, un tel jugement. Une femme pécheresse, était-elle adultère? Était-elle connue pour certains débordements? Qu'est-ce qui a fait pour... que dans la vie de cette femme, quelque chose ne va plus. Ce n'est pas ça l'important. Ce n'est pas l'explication l'important. L'important, c'est la solution. L'important, c'est le remède. Vous et moi, dans nos vies, il y a bien des choses que nous avons faites et que nous regrettons. Il y a bien des choses que nous portons comme un fardeau, un héritage. Peu importe les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés à faire cela. L'important, c'est de rencontrer celui qui n'est pas venu pour juger, mais qui est venu pour sauver. L'important, c'est de rencontrer celui qui est capable de donner aujourd'hui une autre dimension, une autre finalité à notre vie, une autre orientation. Et c'est la rencontre de Marie avec Jésus. Et on le voit, c'est un petit peu des petites fenêtres qui s'ouvrent un peu plus tard dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Jean. Mais ces fenêtres qui s'ouvrent nous montrent que cette femme a saisi la grâce de Dieu dans sa vie. Et on ne parlera plus jamais d'elle comme on parlait jusqu'à présent. Simon, tu as raison, jusque-là, de là, jusque-là. Elle est pécheresse et d'une mauvaise espèce de réputation. Seulement, voilà, là, il y a Jésus. Et cette femme, elle se tient à ses pieds. Jésus ne dit rien, ne lui dit rien personnellement. Et ce n'est pas utile, forcément, que le Seigneur ou que les autres nous parlent. L'important, c'est d'être dans la présence de celui qui nous aime absolument. Mais à partir de là, cette femme ne sera plus jamais la même. Et à partir de là, on ne parlera plus jamais de la même manière de cette femme. Il y a eu une rencontre qui a tout changé. On prend un autre récit, Matthieu 14, 27. Après, on reviendra dans Luc 7. Matthieu 14, 27. Ce sont des récits, des histoires concrètes. Hein. Ça s'est réellement passé. Chapitre 14, verset 27. Voilà que Pierre et les autres disciples des pêcheurs professionnels sont sur la barque, en pleine nuit. Voilà, à partir du verset 24. À partir du verset 24, s'il vous plaît. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent trouvés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je crois qu'il faut essayer de se l'imaginer quand même. Ce sont des hommes affermis. Même s'ils ne sont pas affermis, ils sont quand même des hommes. On ne crie pas comme ça. Enfin, je ne veux pas focaliser sur les femmes qui peuvent crier plus facilement. Mais un homme, ça ne crie pas quand il a peur. Moi, je n'ai jamais peur. De temps en temps, je suis surpris. Ça sort comme on peut. Voilà. Si vous me faites sursauter, j'ai pas eu peur. Vous m'avez surpris. Et donc, ils se mettent à crier. Ils ont peur. Ce sont quand même des professionnels de la pêche. La nuit, ils connaissent. C'est pas la première fois qu'ils vont pêcher de nuit. La mer, ils la connaissent dans tous ses états. Et les vents contraires, ben c'est, ils en ont quand même l'habitude. Mais là, une chose, plus une chose, plus une chose, plus une autre, plus le Seigneur qui vient et il ne discerne pas si clairement que ça. C'est un fantôme! Du coup, en préparant le message, je me suis dit, c'est vrai que je n'avais jamais réalisé qu'il était parlé de fantômes dans la Bible. Alors d'où vient cette idée des disciples? Est-ce que finalement les fantômes, c'est plus vieux que ça dans l'histoire? Je ne sais pas. Mais ils le prennent pour un fantôme et ils ont peur. À tel point qu'ils se mettent à pousser des cris. Alors, on ne va pas essayer de les imiter, mais ça doit être quand même un spectacle particulier que des hommes affermis qui se mettent à crier. Parce qu'ils ont peur en voyant quelqu'un qu'ils prennent pour un fantôme. Je laisse là la plaisanterie. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc il met bien le doigt sur ce qu'il faut, ils ont peur. Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. La barque est battue par les flots, les vents sont contraires. C'est la énième rencontre entre Jésus et les disciples. Ce n'est pas la première fois. Puisque la raison pour laquelle ils se retrouvent sur la mer en pleine nuit, c'est que la veille au soir, Jésus leur dit, partez devant, traversez. Donc ils se connaissent. Comment se fait-il qu'ils ne le reconnaissent pas dans la nuit? Un étranger peut nous surprendre, qui sait, je ne connais pas bien, je ne me rappelle pas. Mais là, ça fait des mois, si ce n'est plus, qu'ils sont ensemble. La veille au soir, Jésus leur dit de traverser. Ils se retrouvent dans un état où ils perdent pied à tel point, et parfois ça nous arrive quand on perd pied, à tel point qu'ils ne sont plus capables de voir si c'est Jésus ou pas, de voir s'il est là ou pas, s'il est près de nous ou pas, si... Nous ne sommes pas en train d'avoir une imagination, quelque chose qui ne fonctionne plus. Ils sont effrayés, ils poussent des cris, j'ai marqué entre parenthèses, dur la vie parfois. Dur la vie parfois. Pour les femmes comme pour les hommes. Chacun a sa limite. On tient jusque-là, on est fort jusque-là, mais là, on arrive à la limite. Alors chacun a peut-être son curseur à des positions différentes, peu importe. Mais quand on atteint la limite, on perd pied. Et même quand on est disciple, on peut être troublé. On peut arriver à des conclusions complètement folles. C'est un fantôme! Mais tu déraisonnes. Tu dis n'importe quoi. Tu réalises ce que tu dis? Non. Quand on perd pied, on réalise plus ce qu'on dit. C'est comme si notre fonctionnement intellectuel, intelligent, normal, était perturbé, était court-circuité. C'est plus ce que vous dites. Après, vous vous entendez avec recul, mais c'est moi qui ai crié. Oh là, oh. Les autres m'ont entendu crier. Oh, ils vont se moquer de moi, sauf que les autres, ils ont crié aussi. Donc, c'est l'autoblocage. Personne ne va se moquer de personne. Parfois, c'est dur, la vie. Et on en arrive à avoir des raisonnements qui sont surprenants, on se surprend soi-même. Voilà. Si c'est toi, même leur foi est mise à mal. Pourtant, Pierre a fait des expériences avec le Seigneur. Et il en arrive encore à lui dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. La foi a parfois du mal à s'établir. Ordonne que j'aille vers toi. Mais finalement, le Seigneur ne lui fait et ne leur fait aucun reproche. Et je reste dans ma parenthèse de tout à l'heure. Surtout, il ne se moque pas de lui. Celui qui a peur, on ne se moque pas de lui. Ce n'est pas risible, il a peur. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui a peur. Peut-être qu'au début, vous avez envie de rire parce que vous, ça ne vous fait pas peur du tout. Mais après, quand vous voyez dans quel état il est, là, vous vous ressaisissez, vous dites, oula, moi, ça ne me fait rien, mais lui, il a peur. Quand nous sommes dans des états de difficulté, le Seigneur ne se moque jamais, ne se moquera jamais de celui qui perd pied, de celui à qui on pourrait faire des reproches, de celui auquel on pourrait dire « mais tu déraisonnes, tu dis des choses qui sont insensées, je perds pied, je n'ai plus mes repères, je suis déstabilisé, je suis en difficulté. » Alors, La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est t'approcher de Jésus. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais viens. Parce que c'est dans nos vies, finalement, la seule chose qui importe, c'est de nous approcher de lui. Et en nous approchant de lui, nous allons voir de plus près ce que nous voyons mal de loin. C'est que c'est lui. Et pas un fantôme, et nul autre. C'est celui dont on a entendu parler. C'est lui avec lequel on a déjà fait des expériences. Et je sais qu'il est capable de calmer la mer. Je sais qu'il est capable d'arrêter la tempête. C'est lui. C'est mon Seigneur. Il a autorité sur tout. Mais là, j'étais en train de perdre pied. Et pourtant, je savais tout ça. Mais le Seigneur est celui qui toujours va honorer notre foi. Tu veux t'approcher, mais approche-toi. Approche-toi du Seigneur Jésus. On change de situation. On revient dans Luc 7 et après on ira dans Luc 8. Luc 7, verset 2. Autre rencontre. Cette fois-ci, c'est avec un légionnaire. Luc 7, verset 2. Un centenier, c'est-à-dire un capitaine, avait un serviteur, donc capitaine de la Légion romaine, parce qu'il n'y avait que ce corps d'armée qui prévalait à l'époque, hein, partout. Donc, un capitaine, un centenier, avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « va » et il va. À l'autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Amen. Là, c'est un autre type de rencontre. C'est un légionnaire qui a du cœur. Cet homme est attaché à son serviteur. Et puis, ce n'est pas que là où on réalise que c'est un homme qui a du cœur. Il a pris à cœur la situation des Juifs, cette nation, ce peuple, jusqu'à construire la synagogue, apparemment, sur ses propres fonds. Alors, on pourrait dire qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive. Et d'autres diraient, mais il le mérite. Parce que s'il est capitaine de la Légion romaine, c'est quand même pas un enfant de cœur, on ne va pas focaliser sur les militaires. Mais quand même, un militaire, on sait qu'il n'est pas là pour tirer avec des balles en caoutchouc. À l'époque, avec des armes en plastique. Donc s'il est capitaine de la Légion romaine, ça veut dire qu'il est armé pour être opérationnel et faire le service pour lequel on l'a engagé. C'est pas un enfant de cœur. Certainement que cet homme a des choses qu'il a faites dans sa vie qui sont dures, qui ont fait du mal. Alors il a du cœur, mais il a fait du mal aussi. D'aucuns vont dire, parce qu'il a du cœur, il mérite que tu lui accordes cela. Et d'autres diraient, mais non, non. Tu ne peux pas bénir cet homme. Tu ne peux pas honorer la foi de cet homme. Il a du sang sur les mains. Et cet homme qui s'adresse à Jésus par des intermédiaires dit je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Et là, on se retrouve toujours, toujours dans le même cas de figure. Ce que disent les uns, ce que disent les autres. Ce que disent les uns, ce que disent les autres. Tant que vous allez écouter les uns et que vous allez ensuite écouter les autres, vous allez être malade parce que vous allez partir dans un sens. Après, vous allez partir dans l'autre sens. Imaginez un seul instant que pour nous, Dieu écoute les uns et les autres. Alors, parfois, il serait enclin à nous bénir, et d'autres fois, il serait enclin à dire « Oh non, surtout pas !» Surtout pas. Alors, qui va l'emporter? Qui a le plus de crédit auprès de Dieu? Heureusement que personne n'a de crédit plus que notre auprès de Dieu. Les gens disent « Il mérite que tu lui accordes cela !» Et Jésus les suit. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire, va faire, pour lui, pour ce serviteur, et puis pour nous. Parce que ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Moi, j'ai intitulé cette rencontre la prière à distance. Parce que la distance, elle peut être en années ou elle peut être en kilomètres. Là, elle est en kilomètres. Et pour nous, elle est en années. Entre cette situation et nous, il y a des années. Peut-être que vous priez pour quelqu'un depuis des années et que vous priez pour quelqu'un qui géographiquement est loin. Est-ce que le Seigneur entend la prière à distance? Distance géographique et distance en année, la preuve est oui. Et il l'entend non pas parce qu'on le mérite particulièrement, parce que d'autres pourraient dire l'inverse, nous concernant comme pour lui. Ce n'est pas dit là, mais on pourrait le dire sans problème. Et le Seigneur va s'exonérer de ce que les uns et les autres disent ou ne disent pas. Cet homme s'adresse à lui par des intermédiaires. Et il fait dire « je ne suis pas digne ». Et ça, ça ouvre l'oreille de Dieu. De temps en temps, le Seigneur ferme l'oreille à certaines prières, à certaines personnes. Mais quelqu'un qui dit « je ne suis pas digne », ça a pour vertu d'ouvrir l'oreille de Dieu, d'attirer l'attention. Je ne mérite pas que tu apportes cela. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il prend un exemple très militaire, très concret. J'ai des supérieurs, j'ai des subalternes. On me dit « je fais », je leur dis « ils font ». Alors toi, Seigneur, c'est basique, hein ? Il ne faut pas se moquer. C'est basique, mais en même temps, c'est fondamental. C'est comme ça. Et il sait très bien que pour le Seigneur, c'est comme ça. Si le Seigneur auquel il s'adresse et pour lequel il estime qu'il n'est pas digne de le faire directement, parce qu'on est dans la hiérarchie militaire, vous ne vous adressez pas au général, vous, en bas de l'échelle, directement. Quand j'étais à l'armée, il y a un appelé qui l'a fait. Il s'est adressé au colonel commandant de base directement par le réseau interne. Il a eu la réponse. Mais il a eu la réponse avec les déclinaisons qui allaient avec. C'est-à-dire qu'à chaque étage, ça lui est retombé dessus. Donc je referme la parenthèse. Cet homme, il sait que s'adresser à Dieu directement, c'est pas, ça ne se fait pas. Alors il envoie des intermédiaires. Il dit « je ne suis pas digne ». Et c'est pour cela que le Seigneur vient à sa rencontre. C'est pour cela que le Seigneur vient chez lui. Tu penses que tu ne peux pas t'adresser à moi directement, mais c'est faux. Tu l'as fait de cette manière-là, et c'est arrivé. Je l'ai reçu, mais je viens. Je viens pour que tu comprennes que tu peux t'adresser à moi directement, que tu n'as pas besoin de passer par des intermédiaires. Je viens pour que tu comprennes que je ne vais pas répondre parce que tu le mérites ou parce que tu ne le mérites pas, mais je vais répondre parce que tu as confiance en moi. Je vous le dis, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors moi je dis en terminant, la prière à distance, ça marche. Vous êtes loin de Dieu pour le moment, mais vous pouvez vous adresser à lui. Vous vous sentez indigne de la faire directement, vous l'avez fait par une personne interposée. Eh bien, la prière de cette personne est arrivée à Dieu. Et la réponse du Seigneur, elle est directe. Il vient chez lui, il vient à sa rencontre. Et la réponse est donnée à la prière qu'il a faite. Dernier exemple, Luc chapitre 8. On tourne un petit peu quelques pages, et on va au verset 43. Là, c'est la femme qui s'approche par derrière. Autre type de rencontre. Et là, ils viennent en face, c'est direct, c'est bien devant vous. Il y en a d'autres, ils agissent par derrière. Agir par derrière, ce n'est pas toujours mal intentionné. Donc, Luc, 8, 43. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent. Alors, il n'écrit plus pour le coup. « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai connu, une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter aux pieds de Jésus et déclara devant tout le monde, tout le peuple, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Malade donc, depuis 12 ans, elle a tout dépensé. On pourrait dire que pour elle, c'est la rencontre de la dernière chance. Elle a tout essayé. Elle a tout dépensé. Elle est allée voir tous les grands médecins de l'époque qu'on lui a conseillé. chacun a pris sa part. Je ne veux pas que ce soit un message indirect, c'est normal. Mais le résultat pratique pour elle, c'est que rien n'a changé, elle n'a plus d'argent. Et parfois, on vient vers le Seigneur, c'est la démarche de la dernière chance. C'est la rencontre de la dernière chance. Et on est sincère. Je ne mérite pas que tu honores ma foi, mais si tu ne le fais pas toi, si toi dont on m'a parlé, tu n'es pas capable d'agir dans ma vie, alors c'est fini pour moi. C'est la dernière chance. Et elle se disait en elle-même, et ça c'est le discours intérieur, qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur concernant le Seigneur? Qu'est-ce qu'on pense à l'intérieur concernant le Seigneur? Et bien, de temps en temps, quand on en arrive dans des situations difficiles comme ça, on a un raisonnement qui est peut-être un petit peu faible, un petit peu fragile. S'il est ce dont on me dit de lui, alors peut-être que je pourrais être béni. Elle n'est pas affirmative parce qu'elle ne sait pas, mais elle y va. C'est sa démarche, c'est son espérance, c'est sa confiance qu'elle place en lui. Et elle se dit en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement. Mais elle a sorti d'où ça? C'est écrit nulle part. Nulle part, il est écrit comment vous devez faire le geste vers Dieu. Alors d'aucuns vous diront, pour s'approcher de Dieu, il faut se mettre à genoux. Pour s'approcher du Seigneur, il faut aller à tel endroit. Il faut faire tel pèlerinage. Il n'y a rien qui est écrit de particulier. Elle s'approche par derrière et elle se dit en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement. Le Seigneur, et je dirais un peu plus loin, il s'adapte à tout le monde. Parce que son intention est de bénir tout le monde. C'est pour cela qu'il n'a pas établi un seul chemin, ce sera comme ça et pas autrement. Il y a un centenier, il s'adapte. Il y a une femme connue pour être une fille de mauvaise vie. De quelle espèce est cette pécheresse? Il s'adapte. Il y a un homme qui est en pleine nuit en train d'hurler parce qu'il a peur. Il s'adapte. Il y a une femme qui s'approche par derrière et qui touche le bord de son vêtement. Il s'adapte. Alors je m'arrête là parce qu'on ne va pas prendre trop d'exemples. Le Seigneur est capable de s'adapter à votre situation, à votre personne. Alors on le prend dans l'autre sens et ce sera plus court. La rencontre dans l'autre sens. Marie a entendu parler de lui, elle vient à ses pieds. Mais Jésus, il la voit depuis toujours. Il la voit depuis longtemps. Et comme il est le Tout-Puissant qui est venu au milieu de nous sur la terre des hommes, Dieu fait homme, moi, je me fais un petit film à l'intérieur et je me fais un plaisir à me mettre à la place un instant du Seigneur. Tiens, celle qui rentre là. Personne ne sait ici comment ça va se terminer. Ça va les surprendre. Simon, mon gars, je sais que tu vas l'ouvrir. Il vaudrait mieux pas que tu l'ouvres. Parce que je vais te répondre que tu vas devoir rabattre ton caquet. Je ne voulais pas dire autre chose. Et moi, je me dis, il les connaît tous. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quiconque. Alors, il la voit arriver. Nous, on a de temps en temps des éclats de lumière. On voit quelqu'un et on sent des choses, on comprend des choses. Heureusement que ça ne nous arrive pas avec tout le monde, parce que ce serait difficile à gérer. Hein. Je vous fais juste une parenthèse pour détendre tout le monde et faire sourire. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Ce que pensent les femmes. Heureusement que c'est un film. Mais imaginez que vous sachiez ce que pense tout le monde. C'est ingérable. C'est ingérable. De temps en temps, on aimerait bien, je crois que le Seigneur a raison, de ne pas nous avoir donné cette capacité-là. C'est ingérable. Le Doliprane ne suffirait pas. On exploserait de l'intérieur. Mais le Seigneur, lui, il a cette capacité qui ne lui pose aucun problème. Il gère. Donc, quand il nous voit arriver, comme on dit aujourd'hui, il nous voit arriver de loin, tout le monde, il sait pourquoi, il sait comment. Et il la voit arriver. Est-ce que c'est finalement pour elle qu'il est venu là, qu'il a répondu à cette invitation? Je me doute que le Seigneur n'est pas venu pour se faire plaisir à la table de Simon le pharisien, parce que vu l'état d'esprit de Simon, c'est peut-être pas le repas auquel vous avez envie de participer. Voilà, parce qu'il n'y a pas que ce qu'il y a sur la table qui est convivial, qui est agréable. Ce sont les personnes qui sont autour, les sujets de conversation qui vont avec. Donc le Seigneur n'est ni venu pour se faire plaisir au niveau alimentaire, ni venu pour se faire plaisir, pour partager un moment avec des hypocrites et des légalistes. Il est venu, et il se dit, elle n'est pas encore là. Elle va rentrer. Il la voit rentrer. Elle est repérable. Elle a de longs cheveux. Puisqu'elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Donc je me dis que même en penchant la tête, il faut quand même avoir un petit peu de chevelure pour arriver à faire cela. Elle est repérable. Même si elle a un voile comme un petit peu les orientaux, il y a quand même le signe distinctif, c'est elle. C'est elle. Et le Seigneur a dû la regarder. Comment va-t-elle faire pour venir jusqu'à moi? Il y a du monde, hein, autour du Seigneur Jésus. Et j'arrête là le film, mais quand nous nous approchons de lui, il nous voit. Il nous voit arriver, il nous voit tourner, il nous voit aller là-bas. Et il sait très bien qu'on veut s'approcher de lui, mais il y a du monde. Et puis devant tout le monde, on est gêné. Et cette femme, en plus, elle a une telle réputation que rien que déjà le fait d'être rentrée, c'est un effort énorme. Elle sait que, chez Simon le pharisien, elle va se faire plomber. Elle le sait. D'ailleurs, ça ne manque pas. Simon ne le dit pas parce qu'il a un certain rang à tenir à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est la réalité. Et le Seigneur qui a vu arriver cette femme, il voit aussi Simon, il sait ce qu'il pense, et il le plombe directement avant qu'il la plombe elle. Il vient chercher sauver ceux qui sont perdus, même si pour ce faire, il doit aller chez les hypocrites. Il doit aller à la rencontre des gens mal intentionnés. Et il veut donner à cette femme, et moi c'est ça que je veux retenir, un nouveau départ. Et le Seigneur sait très bien qu'elle ne va pas repartir comme elle est venue. Et il sait très bien qu'il va la revoir, elle ne le sait pas encore. Il sait très bien qu'elle va choisir la bonne part. Il sait très bien qu'à un moment donné, cette famille va passer par le deuil. Mais il sait très bien qu'il va faire sortir Lazare du tombeau. Il sait, il voit. Les grâces et les bénédictions, comme les difficultés qui vont arriver dans la vie de cette femme et de cette famille. Mais il est Dieu. Rien ne le prend au dépourvu. Rien ne l'arrête. Et pour le moment, ce n'est pas le moment de lui dire quel sera son avenir. Pour le moment, il faut simplement la laisser faire. Et quand on s'approche du Seigneur pour la première fois, il nous laisse. Il nous laisse avancer d'une place, d'une chaise. Il nous laisse nous mettre à ses pieds. Puis il nous laisse pleurer. J'ai pleuré. Ce n'était pas mon lot quotidien. Mais ça m'est arrivé un jour. Pas bien compris pourquoi. Si ce n'est que je réalisais qu'à l'intérieur, il était en train de se passer quelque chose pour lequel je ne pouvais pas trop mettre de mots, d'explications. Mais quelque chose était en train de se passer. Et c'était comme un nettoyage en profondeur. Comme un assainissement, pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Mais le point de départ de l'œuvre de Dieu, c'est d'enlever ce qui est mauvais. Un petit peu comme une blessure qui s'est infectée, il faut que d'abord enlever ce qui est mal, pour en mettre ensuite ce qui est bien, qui est bon, et qui va favoriser la cicatrisation. Jésus est Pierre, mais là aussi, le Seigneur le sait très bien. Que le Seigneur me pardonne de lui prêter cette intention-là éventuellement, mais peut-être qu'il a un petit peu ri à l'intérieur du scénario qu'il allait voir. Ces hommes, qui sont quand même des hommes d'une certaine stature et maturité, se mettre à crier en pleine nuit, un fantôme! De temps en temps, c'est un petit peu risible. Hein, voilà. Mais c'est moi qui interprète les choses comme ça. Ce que Jésus veut faire avec Pierre, il veut le faire avec chacun de nous. Il veut lui montrer qu'il est digne de confiance, quelle que soit la situation. La mer est contraire, les vents sont contraires, la nuit fait que tout est contraire. Il a du mal à savoir si c'est Jésus, c'est pas Jésus, mais de là à conclure que c'est un fantôme, ça va jusque-là, tout est contraire. Et Jésus est en train de lui dire, je suis digne de confiance. Quand tout est contraire, je suis digne de confiance. La croyance et la foi, ce n'est pas de la théorie. Pierre ne pourra pas parler aux autres sur des théories. Il leur parlera sur du vécu. Il leur parlera sur du concret. Et il leur dira, oui, quand j'ai perdu pied, il a honoré ma foi. Oui, quand je me suis un petit peu comporté de manière ridicule, il a été respectueux à mon égard. Oui, le Seigneur est là pour nous rassurer. Rassurez-vous. C'est ce qu'il leur dit. Rassurez-vous. Et on a besoin dans notre vie que le Seigneur nous dise paix, sérénité. En bas, c'est la tempête. là-haut, c'est la paix et la sérénité. Il est Dieu. En un mot, en un geste, tout s'arrête. Tout est dans sa main. Viens. Et Jésus aime ce moment où il peut dire à Pierre, mais viens. S'approcher de lui par la foi, c'est la meilleure des choses. Jésus est le centenier. Ça aussi, c'est une rencontre que le Seigneur a dû anticiper. Il se sent indigne que j'aille chez lui. Je vais aller chez lui. Ça, c'est extraordinaire. À chacun d'entre nous, chaque fois que nous avons dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Attends. Tu n'es pas digne. Mais moi, je n'entends pas ça. Je veux être avec toi. Je veux être près de toi. Tu me dis que tu ne mérites pas. Je veux encore plus te bénir. Je veux prendre soin de toi. Il est admiratif de la foi du centenier. Et moi, je l'ai noté, c'est un petit peu comme la foi du charbonnier. C'est une foi qui est simple. C'est basique. C'est comme ça. C'est un homme qui fonctionne comme ça. On lui dit de faire, il fait. Et le Seigneur s'adresse à lui et cet homme va faire ce que le Seigneur lui dit. De toute façon, il n'y en a pas un qui est digne. Personne n'est digne. Mais tous, nous sommes aimés. Et puis Jésus rencontre la femme malade. Il vient à portée de main. Elle peut le toucher. Il vient à portée de foi. Il ne me demande pas de croire des choses qui sont hors de portée, qui sont impossibles pour moi à concevoir, à réaliser, à entendre. Quand je lis sa parole, il me donne les moyens de croire en lui. Il me donne la capacité de commencer à avoir confiance en lui. C'est à ma portée. N'importe qui peut avoir confiance au Seigneur. Il est venu pour que chaque situation change. Et je termine. Avec le Seigneur, c'est la rencontre qui change tout. Elle a lieu, la rencontre. Le contact a lieu et ça change tout. Alors, prends ta part. Un petit peu comme Marie qui a choisi la bonne part. Prenez cette part que Dieu vous donne. Fais un pas vers lui. Comme Pierre qui sort de la barque et qui fait un pas. Et puis un autre vers le Seigneur Jésus. Appuie-toi sur ta parole, comme ce centenier qui dit un mot, et mon serviteur sera guéri. Et puis fais le geste de la foi. Ce geste qui consiste peut-être à tourner ses mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, mais interviens dans ma vie, dans ma situation. Ce geste qui consiste peut-être à prier, c'est un geste de foi, la prière. Et dire, Seigneur, mais viens dans ma vie. Et on va se recueillir en faisant comme ça le geste de la foi.